avec notre Dieu qui veut nous nourrir, parce que nous devons croître spirituellement, et cette croissance spirituelle nous permet d'être en bonne santé, tant santé spirituelle, physique et à tous égards. Voilà pourquoi c'est la base même de notre vie. Et nous allons demander à notre... Nous allons demander à Maman Christine si elle est présente, que Maman Christine puisse introduire ce moment dans la prière. Et notre sœur Rose se prépare pour la lecture du passage qui est dans Ézéchiel, chapitre 42, versets 1 à 20. Ézéchiel 42, 1 à 20.
Prions le Seigneur. Papa, merci parce que tu es bon. Il n'y a pas un père qui est comparable à toi. Chaque jour, tu nous invites autour de ta table pour que tu nous enseignes, tu nous instruises, pour que nous soyons des enfants dignes de ton nom. Oh Seigneur, merci de pardonner toutes tes paroles, toutes tes pensées, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, merci notre Dieu pour le pardon et le sang qui nous lave et le Saint-Esprit qui nous remplit. Remplis encore ton serviteur, l'ancien Gaston, de double portion du Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'il nous aide à canaliser ces leçons que nous allons tirer ce soir pour notre vie, afin de préparer l'éternité. Seigneur, merci pour les bien-aimés. Hâte leur pas, ceux qui doivent nous rejoindre sur ce plateau de fumesse. Et merci pour ceux qui sont à la radio. Merci pour ce que tu vas faire au travers des interventions. Nous sommes là et nous voulons, Seigneur, nous remettre à ta grâce, que l'honneur, la louange te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen.
Amen. Oui. Ma sœur Rose.
Oui, papa. Et, je lis la parole de Dieu dans lui, c'est bon. Ézéchiel 42. Il me fit sortir vers le parvis extérieur du côté du septentrion. Et il me conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment au septentrion. Sur la place où se trouvait la porte septentrionale, il y avait une longueur de 100 coudées et la largeur était de 50 coudées. C'était vis-à-vis de 20 coudées du parvis intérieur et vis-à-vis du parvis extérieur, là où se trouvaient les galeries de 3 étages. Devant les chambres, il y avait une allée large de 10 coudées et une voie d'une coudée. Leur porte donnait au septentrion. Les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment, parce que les galeries leur ôtaient de la place. Il y avait 3 étages, mais il n'y avait point de colonnes, comme les colonnes de parvis. C'est pourquoi, à partir du sol, les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. Le mur extérieur parallèle aux chambres du côté du parvis extérieur devant les chambres avait 50 coudées de longueur, car la longueur de chambre du côté du parvis extérieur était de 50 coudées. Mais sur la face du temple, il y avait 100 coudées. Au bas de ces chambres était l'entrée de l'Orient, quand on y venait du parvis extérieur. Il y avait encore des chambres sur la largeur du mur du parvis du côté de l'Orient, vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment. Devant elle, il y avait une allée comme devant les chambres qui était du côté du septentrion. La longueur et la largeur étaient les mêmes. Leur issue, leur disposition et leur porte étaient semblables. Il en était de même pour les portes de chambre du côté du midi. Il y avait une porte à la tête de l'allée qui se trouvait droit devant le mur du côté de l'Orient, par où l'on y entrait. Il me dit, la chambre du septentrion et la chambre du midi qui sont devant la place vide, ce sont les chambres saintes où le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel mangera. Oh, je sens le feu. Alléluia. Alléluia. Où le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel, alléluia, mangeront les choses très saintes. Alléluia. Il y dit, oh Seigneur, ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées devant le sacrifice d'expiation et de culpabilité, car le lieu est saint. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur. Mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font les services, car ces vêtements sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Lorsqu'il y eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura le côté de l'Orient avec la canne qui servait de mesure et il y avait tout autour 500 cannes. Le côté septentrion avec la canne qui servait de mesure et il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure et il y avait 500 cannes. Il se tourna du côté de l'Occident et mesura 500 cannes avec les cannes qui servaient de mesure. Il mesura des quatre côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Merci.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur Rose, pour la lecture. La parole de Dieu est vivante. Elle est éprouvée. Et c'est elle qui est puissante, qui sépare l'âme et l'esprit, les moelles et les jointures.
Amen.
Et ce passage vient avec trois questions. La question 1, de quoi ou de qui parle ce verset? Question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La visite du temple continue, comme nous l'avons vu dans les précédents chapitres à partir du verset du chapitre 40. Et dans cette vision, Ézéchiel est conduit à visiter les annexes du temple, là où il y a des chambres, plus spécialement des chambres des sacrificateurs, c'est-à-dire les salles à manger, les vestiaires sacrés des sacrificateurs et où sont déposés leurs vêtements sacrés. À travers cette vision d'Ézéchiel, une interpellation de la poursuite de la sanctification nous est lancée, car il y aura un mur de séparation net entre les sacrés et les profanes, comme la parole de Dieu nous dit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà, bien-aimés, les passages que nous allons partager tout à l'heure. Nous avons médité. Le Saint-Esprit a déposé en chacun de nous quelque chose de particulier. Et c'est quelque chose de particulier, nous devons le mettre en commun pour l'édification de nous tous. C'est un passage difficile, mais par la grâce du Saint-Esprit, ça devient facile. Nous avons compris le but, la sanctification. Et la sanctification parmi les livres d'Apocalypse, Ézéchiel et Daniel, le Saint-Esprit, et quand nous le lisons sous la conduite du Saint-Esprit, nous saisissons la part que l'Éternel nous donne s'il a permis que nous méditons cette parole cet après-midi et ces jours-ci, parce qu'il a un message particulier à transmettre à ses enfants que nous sommes. Voilà, bien-aimés, je vais donner la parole à l'Assemblée et il n'y a pas de nouveau parmi nous. Que nous puissions nous sentir à l'aise dans la maison de notre Dieu. Et si vous constatez qu'il y a des bruits autour de vous, vous pouvez vous mettre en mute en faisant étoile 6, afin de permettre à nos bien-aimés qui sont aussi à la radio ou à ceux-là qui nous suivront en différé, qu'ils puissent auditionner et suivre les messages avec moins de parasites, moins de bruit possible. C'est l'amour du prochain qui nous demande aussi, qui nous demande de la sorte. Merci. Nous donnons la parole au pasteur Célestin ou maman Christine. Mais avant cela, je vois ma sœur Sandy Lukusa Sandra qui est là. Et nous te souhaitons, ma sœur, bon retour parmi nous et c'est une joie de t'avoir toujours parmi nous. Bonsoir, ma sœur Sandra.
Bonsoir, frère Gaston. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis content d'être de retour aussi.
Amen. Merci beaucoup. Pasteur Célestin ou maman Christine, vous avez la parole.
Oui, merci Papa Gaston pour la parole. Nous sommes en train d'assister à une formation. Aujourd'hui, nous pourrons dire que c'est une très haute formation d'ingénieurs ou de topographes ou d'architectes où l'homme de Dieu est réellement formé avec les mesures, avec précision, c'est pas n'importe qui peut savoir que ça c'est un carré, ça c'est un triangle, ça c'est un losange. Et il n'y a que des gens qui ont fait la géométrie, qui ont fait les mathématiques, qui peuvent réellement connaître ces notions. Les juristes ou les hommes de science, de lettres, qui sont parmi nous, savent de quoi je parle. Quand on parle de mathématiques, ils se retirent en disant « Non, ça ne nous concerne pas. » Mais nous sommes en train de voir comment Dieu nous enseigne que qu'on soit de n'importe quelle formation, qu'on soit juriste, qu'on soit ingénieur, qu'on soit médecin, on a besoin de travailler dans l'œuvre du Seigneur. C'est ça que ces mesures sont en train de me donner, moi, comme leçon. C'est que toute formation que nous avons reçue, elles doivent tous converger vers le royaume, vers le travail dans le royaume. Amen.
Amen. Merci, pasteur Célestin, on a besoin de travailler tous dans la maison du Seigneur. Et les mesures là sont prises, ne sont pas prises au hasard. Notre sœur Abéné, qui est arpenteur, en sait quelque chose. Et ce sont des mesures prises avec exactitude et pour un but bien spécifique. Parce que le Seigneur qui a construit ce temple qui n'est pas fait, de mains humaines, nous voyons déjà les corps humains où nous, enfants de Dieu, comment nous sommes conçus. C'est là où l'éternel demeure, réside. Notre corps est une architecture magnifique. Et quand nous voyons Ézéchiel transporté dans cette vision et où rien n'est laissé au hasard, l'éternel notre Dieu magnifique et l'éternel Dieu des armées appelle tout un chacun de nous d'œuvrer dans cette maison, comme nous l'avons vu dans les passages précédents, que cette demeure est préparée pour tout un chacun de nous. Merci beaucoup. Nous voulons avoir d'autres interventions. Pasteur José des États-Unis.
Oui. Merci beaucoup, frère Gaston. Je remercie le Seigneur parce que le vendredi, tu n'as pas terminé l'intercession à cause de ta santé. Tu m'avais demandé de prier. Nous avons fait avec Papa Célestin après, sans que tu sois là, mais le Seigneur était avec nous, comme tu es là. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, le verset 6, je le prends. Les galeries étaient superposées sur 3 étages sans être soutenues par des colonnes comme les autres bâtiments de la cour. Bien-aimé, j'aimerais relever l'absence de colonnes. En principe, ces galeries devaient être soutenues par des colonnes comme les autres, mais ces galeries ne sont pas soutenues par les colonnes. Là, il y a la main de Dieu. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture relève l'absence de colonnes. C'est pour montrer que c'est un miracle. Parce que, vu la hauteur, il devait y avoir des colonnes. Mais il n'y avait pas de colonnes. Bien-aimé, nous avons un Dieu grand, un Dieu miraculeux. Et très souvent, nous voulons toujours que quelque chose nous arrive comme par le passé. Par le passé, j'avais ça, cette fois-ci, je n'ai pas à... Il y a de l'anomalie. Non. Il n'y a pas d'anomalie. Dieu est miraculeux. Et nous devons nous attendre au miracle de Dieu n'importe où et n'importe où.
Ça va?
Merci, bien-aimé.
Comment tu m'as?
Merci beaucoup, pasteur. Je vais mettre
17h, ok.
Merci. Notre Dieu est miraculeux. Et puis, nous avons vu comment il n'y a pas de colonnes. Et toujours dans ce passage, le verset 5, les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures. Au fur et à mesure qu'on montait, les chambres, au lieu d'être très larges, devenaient plus étroites. Et même dans ce cadre, nous nous approchons des lieux saints, nous nous approchons de l'Éternel. Quand on s'approche de l'Éternel, la sainteté est mise de rigueur. Et on ne peut pas se comporter n'importe comment. Voilà pourquoi ça devient plus étroit. Et quand une allée ou un endroit est étroit, on fait attention comment on marche et comment on doit se mouvoir. Ainsi, la sainteté est appelée lorsque nous nous approchons plus de Dieu, que nous soyons dans cette sainteté, parce que celui qui nous a appelés est saint. Et nous, ses enfants, nous devons demeurer saints. Merci beaucoup, pasteur José des États-Unis. Nous accordons la parole à notre bien-aimé frère Thomas. Bien-aimé, vous avez la parole.
Oui, bien-aimé, je voudrais élaborer toujours dans les versets 13-14. Je suis impressionné par le nombre de fois le mot saint revient. Le texte dit que ce sont des chambres saintes. Ils vont manger des choses saintes. Ils vont y déposer des choses très saintes. Parce que le car ce lieu-là est saint. Et les vêtements qu'ils vont devoir mettre, ils doivent le changer pour avant de rentrer au peuple, parce que ces vêtements-là sont saints. Donc c'est 5 fois en 2 versets que le mot « la sanctification » revient dans la présence de Dieu. On dirait que c'est la même pensée que Pierre avait quand il écrit 1 Pierre 1, 15-16, quand il dit « de même que celui qui vous a appelé est saint, devenez aussi saint dans votre conduite, car il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. » Donc, il y a une répétition qui veut dire une insistance à la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Le Seigneur Jésus va lui-même dire, seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Donc, il va être important que je sois sérieux avec, et la sanctification signifie me détacher, me mettre à part pour Dieu, me fuir le mal, c'est-à-dire me reconnaître être quelqu'un que le Seigneur a libéré. Je suis une nation sainte, un enfant de Dieu, un peuple élu. Je suis mis à part pour vivre pour Dieu et non plus vivre un peu de péché aujourd'hui, un peu de Dieu, un peu du monde, non, mais être complètement attaché au Seigneur, fuir du péché et vivre dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Merci.
Merci beaucoup. Nous ne devons pas vivre un pas dedans, un pas dehors. Nous devons demeurer dans la sanctification, parce que celui qui nous a appelés est saint. Si nous nous reconnaissons en tant qu'enfants de Dieu, pour lesquels Jésus-Christ a souffert et qu'il est mort et est ressuscité, nous devons demeurer et vivre dans la sanctification, parce qu'il y a une demeure qui nous est préparée, que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Et si nous avons envie, nous avons cette joie et cet empressement de vivre dans cette demeure, nous devons nous préparer à nous sanctifier sans cesse. Pas quand tout va bien, même dans les moments difficiles, nous devons chercher à demeurer dans la sanctification. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, à partir du verset 26, « afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà, bien-aimés, là où nous sommes appelés à demeurer et comment nous devons désirer cette sanctification dans tous les aspects de notre vie. Merci beaucoup, bien-aimé Thomas. Nous accordons la parole au pasteur Célestin ou à maman Christine.
Oui, merci encore pour la parole, papa Gaston. J'atterris aussi toujours dans ce verset 13. On parle bien sûr des prêtres dans ce verset, que le prêtre qui peut se présenter devant le Seigneur mange les offrandes spécialement sacrées dans ces salles, mais aussi elles sont consacrées à Dieu, on y dépose des offrandes spécialement sacrées, les dons et les victimes de divers sacrifices offerts pour obtenir le pardon. Donc je vois le prêtre. Donc, cette maison qui nous est décrite, c'est une maison qui sert à servir Dieu, à adorer Dieu, à offrir à Dieu. Donc, ce qui m'apprend, on ne peut pas servir Dieu sans offrir. Donc, quand on offre à Dieu, quand on donne à Dieu, c'est aussi une façon de le servir, une façon de l'adorer. Le chrétien du 21e siècle, nous avons, ou nous nous sommes exercés à Dieu seulement à demander. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais nous ne savons pas que nous avons aussi besoin de donner quand nous allons à l'église, de donner quand nous servons Dieu. Donc là, il y a les offrandes qui occupent une place importante dans ce bâtiment qui sera vraiment au service de Dieu. Ça, c'est un deux. Mais il y a aussi les sacrifices qui vont servir de pardon. Et quand nous regardons tout, comment c'est sophistiqué, tout ce qui est décrit ici, nous disons, nous sommes vraiment heureux. Pourquoi? Parce que nous avons un sacrifice complet, total et unique. Et ce sacrifice, c'est notre Seigneur Jésus qui l'a accompli une fois pour toutes. Donc il n'y aura plus de chambre réservée pour le sacrifice de pardon. Le pardon nous a déjà été obtenu à la croix. Il nous suffit seulement de nous en approprier, d'en prendre par la foi. Amen.
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 Merci beaucoup, pasteur. C'est scellé. Cette maison sert à servir Dieu, à l'adorer. Nous vivons, comme nous le disions, cette parole nous est adressée à ce moment si précis, pour un but. Nous sommes aussi cette maison du Seigneur. Et cette maison du Seigneur ne loue pas, n'adore pas seulement le Seigneur quand tout va bien, où nous excellons seulement dans les demandes. Nous devons aussi avoir le temps de louer, d'adorer, d'exalter l'éternel Dieu des armées qui nous a créés. Oui, le temple est là. Nous voyons tout ce qui est fait avec exactitude. Rien n'est laissé au hasard, même lorsque les chambres de premier niveau sont plus larges que celles qui sont au troisième étage, c'est fait à dessein. Et nous devons servir l'Éternel en tout temps. Là, quand il y a abondance, même quand il y a disette, nous devons et continuer à louer l'Éternel notre Dieu. Merci beaucoup, pasteur Célé. Nous accordons la parole à notre bien-aimé Thomas.
Je suis dans le même verset 13 par rapport à ce qui est déposé, qui est saint. Il est dit que les prêtres, les gens qui entrent dans le lieu saint là, ils vont y manger des choses saintes, ils vont y déposer des choses très saintes, et ils vont y déposer les offrandes, et puis les sacrifices pour le sang. Donc, je me dis que les offrandes, finalement, ce sont des choses saintes. L'offrande, ce qui est donné au Seigneur, c'est sanctifié. Ce n'est pas, l'offrande ne doit pas être considérée comme quelque chose de léger parce que les gens demandent l'argent, on donne de l'argent et on murmure. Non, c'est pourquoi la Bible dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce qu'en fait, quand nous donnons pour l'œuvre de Dieu, que ce soit nous donnons à l'église, à notre église, au FIMES, nous donnons à la Ligue, nous donnons au Campus pour Christ, on donne de l'argent pour l'œuvre de Dieu. L'acte même est saint, mais l'offrande elle-même est sanctifiée. Parce qu'elle est donnée à un Dieu saint, il dit ici qu'on va y mettre des choses saintes, et pour y entrer, il faut être sanctifié. Il faut porter même des habits spéciaux qui sont saints pour arriver à donner cette offrande à Dieu. Moi, je pense que c'est pourquoi Ananias et Saphira, Dieu les a frappés parce que en donnant moins que ce qu'ils avaient dit, Pierre va dire, vous n'avez pas menti à des hommes, vous avez menti à Dieu, et Dieu va les punir en les tuant. Donc, je trouve que l'acte de donner à Dieu, c'est une adoration. C'est comme ça que les mages sont venus à Matthieu 2 adorer le Seigneur Jésus qui et ils ont offert leur don comme un acte d'adoration. Donner au Seigneur, c'est un acte de sanctification. C'est pas seulement un simple acte de donner. Ne murmurons pas quand nous donnons. Ou ne refusons pas de donner parce qu'en fait, ça fait partie de l'adoration et c'est saint que de donner l'offrande à Dieu. Merci.
Merci beaucoup, frère Thomas. Ne murmurons pas quand nous donnons à Dieu. Comment est-ce que moi, je donne à Dieu? Est-ce que je me prépare en conséquence ou en dernière minute, je sursaute, je dis qu'est-ce que je peux avoir sur moi? Comme lorsque nous donnons à ceux qui sont, que nous rencontrons en cours de route, les itinérants qui ont besoin de change et nous souvenons qu'il y a quelque chose que je peux qui n'est pas très nécessaire et que je remets. Demeurons dans cette sainteté parce que celui qui nous a appelés est saint. Même les habits que nous portons, les sacrificateurs portent est saint. Nous voyons dans Actes 19, verset, je pense, 12, oui. On allait jusqu'à lui prendre ses mouchoirs ou son linge de corps pour les appliquer aux malades et ceux-ci guérissaient à leur contact, les mauvais esprits s'enfuyaient. Nous sommes saints. Celui qui habite dans nous est saint. Et voilà que Paul, même les gens venaient appliquer les mouchoirs sur le corps de Paul et quand ils partaient appliquer sur les malades, ceux-ci étaient guéris et les esprits mauvais fuyaient. Voilà pourquoi au verset 14, les sacrificateurs, après ce service, ils mettaient d'autres habits pour s'approcher de l'endroit réservé. Les habits qu'ils portaient pour le service étaient saints, ils les mettaient de côté. Nous devons saisir cette grâce que nous avons parce que la sanctification, c'est même la divinité, la pureté même de notre Dieu. Quand nous voyons Dieu saint, saint, saint l'Éternel. Et c'est lui par sa grâce, par son Fils Jésus-Christ qui nous a rendus saints. Saisissons cette grâce qui nous est offerte de demeurer et d'accomplir des actes qui témoignent cette sainteté lorsque nous désirons vivre dans la sanctification, d'être en communion avec l'Éternel des désarmés. On ne peut pas être en communion avec l'Éternel notre Dieu quand nous faisons des offrandes qui ne sont pas conscientes, des offrandes où nous-mêmes, au-dedans de nous, nous ne sommes pas saints, nous ne nous sanctifions pas. Revenons à l'Éternel, notre Dieu, lui qui nous appelle et lui qui veut que nous marchions dans cette sainteté. Si on a haï Jésus-Christ, le monde a haï Jésus-Christ, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ vivait dans cette sainteté et il disait au monde ce que, qui n'était pas, qui ne venait pas de la sainteté. Et nous, si nous marchons aussi dans le Seigneur, dans la sanctification, le monde nous haïra. Ne nous haïra pas parce que nous marchons ensemble avec lui, mais parce que nous vivons autrement et nous marchons dans cette sainteté dans laquelle notre Seigneur nous a appelés et nous a ouvert la porte. Merci, bien-aimés. Nous accordons la parole au pasteur Célestin ou à maman Christine.
Oui, merci, Papa Gaston, pour la parole. Je suis au verset 15. Dans la version français courant que j'utilise, il est question l'homme qui conduisait le prophète a terminé les mesures intérieures, mais va le faire sortir par le porche est. Il s'est mis à mesurer l'espace extérieur du temple. Et ça, c'est toujours significatif dans le sens où qu'est-ce que l'extérieur a à voir? Parce que ce qui est important, c'est l'endroit où il faut aller adorer, il faut aller offrir, mais l'extérieur est aussi important. Ce qui arrive souvent quand nous allons au temple, nous allons à l'église, c'est que on est plus sain dans le temple. Mais quand on sort du temple, là on pense que tout est permis. C'est là qu'on commence à critiquer, c'est là qu'on commence à dire, regarde comment cela est habillé. On commence à l'extérieur, on pense que tout est permis. Pourtant, Dieu a besoin de nos cœurs. De la même manière à l'intérieur quand nous adorons Dieu et de la même manière à l'extérieur quand nous sommes à l'extérieur du temple. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur Célestin. Ne soyons pas des saints à mesure. Soyons saints et demeurons dans la sainteté. De telle sorte comme nous venons de l'entendre, que nous n'attendions pas quand nous sommes en public, nous sommes les très saints, et quand nous sommes en privé, nous changeons de casaque. Le Seigneur a souffert, il est ressuscité, et il a payé le prix pour nous, et marchons dans cette sanctification. Merci beaucoup, pasteur Célé. Nous accordons la parole au frère Thomas. Bien-aimé, vous avez la parole.
Bien-aimé, je rentre au verset 14 par rapport aux vêtements. Il est dit que au verset 13, ils vont porter des vêtements saints. Et au 14, avant de rentrer à l'endroit du peuple, ils vont enlever les vêtements là saints pour porter d'autres. Mais moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que nous sommes conscients qu'est-ce que nous portons? Même physiquement, quand nous allons chez Dieu. De plus en plus, je vois, surtout chez les femmes, des tenues non appropriées dans le temple. On voit des jupes, des robes très, très courtes et tout ça. Les gens s'exposent. On dirait que l'Église, c'est un moyen, c'est un territoire d'attraction pour et de séduction vis-à-vis de sa personne pour s'attirer de l'attention. C'est très dangereux ça, parce que c'est vraiment le contraire du plan de Dieu. Quand nous venons à l'église, c'est vrai que nous sommes les temples de Dieu, notre corps c'est le temple du Seigneur, oui, mais aussi le temple, le genre où, là où nous nous réunissons, nous les chrétiens, l'assemblée là, c'est aussi l'assemblée du corps de Christ. Et lorsque nous nous rassemblons, nous devons avoir des tenues de respect vis-à-vis du Seigneur. De moins en moins, les hommes comme les femmes portent de manière à mettre dans la tête que je pars dans une réunion et Dieu se trouve dans la réunion. Nous, on a l'impression que on se retrouve et on doit être validé par une certaine tenue, par comment nous sommes là pour qu'on nous voit aussi et qu'on soit. Mais en réalité, Dieu, même pour Aaron et ses enfants, pour venir au temple, on avait fait faire des habits spéciaux, des robes spéciales qu'ils devraient porter pour venir dans ce milieu ici. Et c'est des vêtements ici dont on parle. Donc je voudrais seulement exhorter les sœurs, comme le frère, d'éviter d'avoir dans la tête que je vais porter comme me voit. Et cet aspect-là peut nous amener de plus en plus à des tenues que l'Église n'aurait pas dû être acceptée parce que ce n'est pas l'endroit pour se rencontrer entre nous seulement, mais en réalité, nous y adorons Dieu et il y a une manière de se présenter devant Dieu. Merci.
Merci beaucoup, frère Thomas, de soulever cet aspect important. L'Église n'est pas un territoire d'attraction. L'Église n'est pas un territoire de séduction. Tenons compte à plaire à l'Éternel Dieu des armées et non à impressionner les hommes qui sont des créatures comme nous. Mais par contre, par notre attitude intérieure, nous allons plus impressionner et que cela puisse marcher ensemble avec notre attitude extérieure. Dieu n'est pas contre que nous puissions nous habiller très bien. C'est pour la gloire de Dieu, mais tenons compte quel habit qui ne doit pas être une occasion de chute pour ma sœur, une occasion de chute pour mon frère, ou carrément, je pars parce qu'aujourd'hui, ils vont me voir comment je suis habillé. Nous partons devant celui-là qui est le meilleur designer et devant celui-là qui habille mieux que quiconque. Voyons la beauté des fleurs. Et nous partons nous humilier devant celui-là. Et tout ce que nous faisons, que nous le faisons de bon cœur dans la sanctification. Et ça sera une grande joie pour l'Éternel, notre Dieu. Veillons donc, frères comme sœurs, dans notre façon de nous habiller, que nous les fassions pour plaire à l'Éternel, notre Dieu, et non aux hommes. Merci beaucoup, frère Thomas. Et merci aussi, je vois la présence de notre sœur Agnès, hein? Ma sœur, nous te souhaitons bon retour parmi tes frères et sœurs et que l'Éternel Dieu des armées te fortifie pour que nous soyons tout le temps ensemble. Bonsoir, ma sœur Agnès.
Bonsoir.
Merci, bien-aimé. Nous continuons. Je reviens par rapport à ce que notre bien-aimé disait. Je vois déjà le verset 20. Il mesura les tours de la muraille aux quatre points cardinaux. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. C'était la séparation entre les saints et les profanes. Nous sommes appelés saints, nous sommes mis à part et nous devons, ce qui m'a beaucoup interpellé, et Gaston, tu es appelé saint, tu tu es mis à part et tu dois être au service de l'Éternel. Que je sois disponible pour servir l'Éternel à tout moment. Je ne me comporte pas comme tout le monde, monsieur tout le monde, madame tout le monde, ou parce que maintenant il y a pas mal de doctrines qui sont à travers véhiculées, à travers les églises et entre guillemets églises, mais je suis mise à part pour l'Éternel Dieu des armées. Que je sache qu'il y a une démarcation entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Et moi, je suis sacré pour être à l'Éternel Dieu des armées, le servir et être, pour être sacré, c'est être, demeurer à mon poste.
Amen.
De telle sorte que quand l'Éternel a besoin de moi, il sait que ma fille est là, mon fils est là et il utilise. Bien-aimés, désirons être à notre poste, désirons être dans cette catégorie de ce qui est sacré parce que nous sommes saints et nous devons travailler à cette sanctification nuit et jour à tout moment de notre vie. Que le temps puisse être meilleur, que le temps puisse être difficile, bien-aimés, regardons et retournons toujours vers l'Éternel, notre Dieu. Merci beaucoup. Nous donnons la parole au pasteur Célestin ou à maman Christine.
Oui, papa Gaston, merci encore pour la parole. Quand je vois, depuis que nous avons commencé, cet homme qui a pris le prophète depuis, qui lui disait qu'il faut ouvrir bien les yeux pour voir et bien ouvrir les oreilles pour entendre, il lui a présenté en un seul mot les lieux du culte, les lieux d'adoration de notre Dieu. Et ces lieux dans lesquels il va y avoir des sacrifices, dans lesquels il va y avoir les sacrificateurs pour travailler pour lui, la leçon que je tire, c'est que Dieu veut voir ses enfants ensemble pour l'adorer. Si c'était des individus, des gens seuls, en leur maison, ça ne servait à rien de bâtir un endroit pour l'adoration, pour les services de Dieu. Alors ça m'enseigne dans le sens que même quand le Seigneur Jésus est arrivé, il n'a pas laissé les gens individuels chez eux dans leur maison. Il a laissé l'Église. Il a encouragé l'Église de rester ensemble, d'adorer, de pratiquer la Sainte Cène, de se souvenir de ce qu'il a fait. Il a laissé l'Église ensemble. Donc ceci pour nous renseigner que quand nous avons abandonné nos lieux d'adoration, nos lieux de culte, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quand on est enfant de Dieu, on arrive quelque part, on doit chercher les siens pour adorer Dieu ensemble. Dieu, on l'adore ensemble. C'est vrai, on peut l'adorer seul, mais Dieu veut que son peuple s'unisse et l'adore. Et c'est ça que nous sommes en train de voir au travers ce temple avec tous les services, avec tous les sérieux. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur Célestin. Adorons Dieu ensemble. Le temple est grand. Il n'y a pas une seule personne. Nous tous, nous devons y aller pour adorer l'Éternel. Et par cette dynamique, nous nous sanctifions, nous apportons ce qui est sanctifié. Quelle joie de trouver les enfants de Dieu vivant dans la sanctification qui lèvent leur main pure devant l'Éternel Dieu des armées pour l'adorer et l'exalter. Adorons Dieu ensemble dans la sanctification. Nous allons donner la parole à notre bien-aimé Thomas. Il sera la dernière personne. Dans l'entretemps, notre sœur Abéné va s'apprêter à nous lire les commentaires du jour de notre bien-aimé Aboua Gilles Bal de la Côte d'Ivoire, qu'elle s'apprête pour nous lire les commentaires du jour et nous accordons la parole à notre bien-aimé Thomas. Frère, vous avez la parole.
Oui, moi je voudrais seulement dire que quand on voit le texte depuis qu'on a commencé, les mesures, depuis un certain temps, on mesure le sanctuaire, telle dimension, il faut faire ça. Ça demande de l'intelligence. Dieu, c'est un Dieu d'intelligence, de connaissance, de profondeur, d'ingénierie. Donc, nous devons demander à Dieu l'intelligence. La connaissance, l'intelligence vient de Dieu. Ça ne vient pas de soi-même. C'est Dieu qui rend intelligent. C'est Dieu qui donne la connaissance. C'est Dieu qui donne, en anglais, le understanding. Donc, la capacité de comprendre les choses et de les appliquer dans la vie. La connaissance des mathématiques, la connaissance de l'ordinateur, la connaissance des langues, la connaissance des mécanismes de gestion, la connaissance sur les échanges, le stock sur le marché, la bourse, toutes ces choses que nous voyons dans la technologie et la dimension de connaître l'avancement, les découvertes, c'est Dieu qui les donne à quelqu'un. Nous devons demander à notre Dieu de rendre nos enfants intelligents, de nous rendre intelligents, de nous donner la capacité d'étudier, le goût de reprendre les études, de les achever et de diriger ce monde ici, de participer à la science, à la découverte, à la connaissance. C'est aussi un don de Dieu. Merci.
Merci beaucoup. C'est aussi un don de Dieu. Quel privilège avons-nous d'avoir un tel papa capable de tout et qui possède tout? Demandons-lui ce dont nous avons besoin et ce dont nos familles ont besoin. L'intelligence, la connaissance, la compréhension de tout ce qui se passe, même les révélations. Si nous lui demandons, il nous révèle cela. Même les secrets les plus bien gardés, l'Éternel nous révèle cela. Au lieu de nous plaindre, approchons-nous de Dieu, faisons-lui confiance et demandons-lui tout ce dont nous avons besoin. Merci, bien-aimé. Nous donnons la parole à notre sœur Abéné pour nous lire les commentaires du jour.
Séparation du saint et du profane. Pour terminer la visite, l'ange montre à Ézéchiel les bâtiments extérieurs du sanctuaire avant de mesurer les dimensions de l'ensemble du sanctuaire. Les bâtiments annexes ou dépendances du temple. Ces dépendances sont situées du côté du nord et du côté sud du parvis du temple, en face du parvis extérieur. Comme les chambres latérales, les chambres des dépendances sont construites sur trois niveaux. Versets 5 à 6. Ces chambres rectangulaires constituent les chambres des sacrificateurs. En effet, c'est dans ces chambres que les sacrificateurs mangeaient les offrandes spécialement sacrées, dites choses saintes. Mais ils y laissaient également leurs vêtements avec lesquels ils font le service pour revêtir d'autres. Avant de sortir, la symbolique du changement de vêtements est la distinction entre le saint et le profane, versets 14 et verset 20. C'est également la même symbolique qu'on peut lire dans la mesure du mur. La mesure des dimensions du mur extérieur du sanctuaire. L'ange termine la visite par la mesure de l'espace qui entoure le temple. Il trouve alors que le mur entourant le temple est carré. Le but de ce mur carré d'environ 240 mètres de côté est de marquer la séparation entre le saint réservé à Dieu et le profane, verset 20. Une fois cette distinction bien faite et bien pratiquée, la gloire de Dieu peut alors revenir dans le temple. Ce qu'on va voir au chapitre 43. Laissons, Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, sachons faire la part des choses et demeurer dans la sainteté. Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur Abénin, pour la lecture des commentaires du jour. Demeurons dans la sainteté si nous voulons voir la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Nous allons donner la parole au pasteur Séné pour les annonces. Et nous appelons nos bien-aimés. Tout d'abord, nous remercions et nous encourageons tous nos bien-aimés qui ont pris l'appel de la semaine passée à cœur pour que dans notre caisse, il n'y ait pas rupture de provisions pour que nous puissions être en mesure de faire face au paiement des différentes factures. Bien-aimés, merci pour tous ceux-là qui y ont songé à offrir quelque chose de sain et de spontanéité à l'Éternel, notre Dieu. Et nous continuons à demander à tout un chacun de nous pour que nous puissions entretenir cette provision, pour que nous soyons en mesure de faire face à tous les besoins qui se présentent. Nos dons, nos contributions, nos offrandes sont bien accueillies pour l'avancement de l'Éternel, notre Dieu. Et nous continuons à recevoir cela. Merci, bien-aimés. Nous accordons la parole au pasteur Célestin pour les annonces et aussi pour la prière de clôture.
Oui, merci papa et Gaston pour la parole. Je peux vraiment témoigner, aujourd'hui après notre service, il y a une sœur qui m'a vu pour me dire qu'elle a été touchée par l'appel du frère Gaston et qu'elle a donné sa participation. Donc pour dire qu'il y a vraiment des cœurs attentifs et sensibles à écouter la voix ou l'appel du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous saluons les frères et sœurs qui sont à la radio, qui sont au Québec, en Alberta, à Massachusetts. Soyez bénis, peuple de Dieu, et c'est vraiment une bonne habitude d'écouter régulièrement, pas seulement en direct, mais après. 10 minutes après notre méditation, il y aura la méditation de l'Europe, de l'équipe de l'Europe qui passe, qui est aussi très, très enrichie. Si vous gardez l'écoute, vous suivrez encore cette méditation. Soyez bénis, peuple de Dieu. Troisième annonce, c'est le camp biblique. Les frères et sœurs de l'Europe sont très excités de voir ceux de l'Amérique du Nord. C'est pour cela que dans notre dernière réunion le samedi, c'était une réunion mixte avec les gens de l'Europe. On entendait des sœurs, des frères dire « Oh, nous sommes vraiment excités de voir tel, de voir tel, de voir tel. » Donc si nous pouvons y être tous, ça sera vraiment l'idéal. Mais continuons à prier, continuons à soutenir cet événement et le Seigneur sera glorifié. Pouvons maintenant prier. Notre Dieu, merci parce que tu veux que nous restions autour de ta parole, que nous en soyons formés, bénis. Et tu nous as parlé combien ta parole nous forme, nous corrige, nous instruit, nous convainc, tout simplement pour que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit accomplie, soit équipée et préparée à accomplir toute œuvre bonne dans ce monde. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce texte avec beaucoup de mesures. Ça montre vraiment de l'intelligence, ça montre une grande sagesse, une grande technicité. Merci pour tous les ingénieurs, les arpenteurs, les architectes, tous ceux qui ont, et même dans le domaine de management, dans le domaine de finances, tous ceux qui continuent à étudier, c'est une grâce et c'est un don de Dieu. Nous te sommes reconnaissants. Et merci de nous donner l'importance du temple, l'importance de nous réunir ensemble. Donne-nous, Seigneur, à comprendre que c'est quand nous sommes ensemble que Dieu agit d'une façon extraordinaire. Il veut son peuple ensemble, dans l'adoration. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ qui nous pardonne chaque jour. Chaque jour, nous avons au moins une base sur laquelle nous devons demander pardon. Le sacrifice de Jésus-Christ. Nous bénissons ce sacrifice complet qui a été accompli pour chacun et pour chacune d'entre nous. Merci, notre Dieu, pour toutes les leçons tirées ce soir. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé de nous bénir. Continue à bénir sa maison. Continue à bénir son ministère. Et merci pour nos frères et sœurs, tous ceux qui sont venus pour bénéficier de ta grâce autour de ta parole ce soir. Nombreux, nous sommes venus. C'est pas qu'il y a des choses à faire qui manquent, Seigneur, mais tout simplement parce que nous avons compris qu'il y a de la vie dans ta parole. Bénis chacun, bénis chacune d'entre nous. Donne-nous à creuser cette habitude de nous accrocher à ta parole chaque jour. Sois béni pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur. Merci pour tous les préparatifs du camp biblique. Nous continuons à bénir les frères et sœurs de l'Europe qui se préparent à accueillir tous ceux qui viendront du Canada, des États-Unis, de partout en Europe. Merci parce que tu rends au moins ton peuple sensible que nous devons exercer la communion fraternelle une fois par an ensemble pour nous bénir les uns les autres et pour être instruits à tes pieds autour d'un thème. Bénis encore le préparatif de ce camp. Bénis tous ceux qui se préparent à financer notre Dieu, que ce soit ceux qui sont sur place ou ceux qui vont nous écouter à la radio. Il y a toujours une possibilité de donner parce qu'on ne donne pas à un homme, on donne à toi. Que ta grâce abonde dans nos maisons. Que la semaine soit une semaine bénie, une semaine où nous voyons ta main et ta faveur. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Merci. Soyons dans la paix de notre Dieu, la paix que le monde ne peut jamais nous offrir. Bonsoir à tout le monde.
Amen. Bonsoir.